Journal aussi bol, ça fait longtemps. Journal d'un entrepreneur de retour derrière les micros. Et là, j'ai 6 épisodes enregistrés aujourd'hui. Je pense que je vais être correct pour un bout. Je skipperai plus de semaine. C'est ça qu'il fallait que je fasse. J'enregistre une longue série d'épisodes et ensuite je les pré-publie. Je suis désolé, j'ai sauté quelques semaines. Comme vous le savez, il y en a beaucoup qui m'ont écrit sur Instagram, me demander si j'étais toujours intéressé à faire du podcasting. La réponse est oui. Sans aucun doute, il y en a beaucoup qui s'ennuyaient du podcast parce que je sais qu'il y en a qui l'écoutent religieusement chaque semaine quand j'en sors un nouveau. Et ça fait un bout que j'en ai pas. Donc, il fallait recycler des anciens épisodes. Mais merci à vous pour la patience. Merci surtout pour le support. Il y en a qui ont continué de m'écrire des 5-star reviews, c'est fort apprécié. La chose que j'apprécie le plus, ça prend 32 secondes de votre temps sur l'application Palados. Vous allez en bas, vous laissez un 5 étoiles et vous ajoutez un commentaire. iTunes se nourrit de ça pour classer nos podcasts, nous donner plus de visibilité, etc., etc. Donc, merci beaucoup. Sans plus attendre, sautons aux excuses tout de suite. Je veux quand même expliquer. Excusez-moi pourquoi j'étais absent pendant une si longue période de temps. Écoutez, en toute transparence, ce qui s'est passé, c'est simple, là, c'est que je me souviens d'avoir fait un épisode dans mon auto puis d'avoir dit qu'on avait finalement fait un mois record le premier mois du COVID de 1%. Donc, on avait battu le mois record passé de 1%. Et qu'est-ce qui est arrivé en mai et qu'est-ce qui est arrivé en juin 2020? Je pouvais pas le prévoir. Écoutez, en mai, on a battu le mois record qu'on venait de faire en avril de 29%. Fait que c'est quand même un grand pas. Et ensuite, en juin, on a battu le mois de mai de 13%. Donc, il y a eu une forte augmentation. Je l'avais pas vu venir. Personne n'avait vu venir à l'interne. On n'était pas préparé à ça. On n'avait pas le staff pour ça. Donc, il a fallu embaucher 6 nouveaux employés assez rapidement. Je suis quelqu'un qui prend les RH vraiment à cœur. Je trouve ça super, super important dans une business, le capital humain. Je pense que c'est pas tout le monde qui se rend compte de... Que le succès de ta business, c'est non seulement un bon produit, un bon service à la clientèle, des bonnes relations, ça va plus loin que ça. Je pense que ça prend une équipe de feu qui prend soin de ton bébé comme si c'était leur. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer à l'interne. Puis je pense que j'ai quand même beaucoup d'employés qui ont « believe » de tatouer sur le chest. Ça sera pas possible avec tout le monde, évidemment. Mais tout de même, je m'efforce que tout le monde s'imprègne la culture, la transparence, l'importance de la relation client. Et j'ai mis tout mon temps, toute mon énergie là-dedans. Tu sais, je faisais beaucoup de podcasts avec Jake, puis on s'est dit qu'on allait recommencer justement depuis que le COVID est terminé. Ça ne me tentait pas vraiment de le faire sur Zoom, les deux. On avait des gros changements dans nos business respectifs et on a hâte de juste aller s'entraîner ensemble pour faire du podcasting. On aime ça. Mais Jake avait toujours une bonne métaphore, autant dans le temps des lives que dans le temps des épisodes de podcasts avec, où Jake disait qu'on a une carte de crédit de stress. Puis on a chacun notre limite de stress, on a chacun notre carte de crédit de stress. Et je pense que la mienne était complètement loadée. Et c'était impossible pour moi de rajouter quelque chose sur cette carte de crédit-là. Donc c'était impossible pour moi de faire des achats de temps et de mettre du temps en podcasting. C'était juste impossible parce que je n'étais pas capable de la payer, cette carte-là. Quand je dis que je n'étais pas capable de la payer, c'est que la seule façon pour moi de payer ma carte de crédit de stress, c'est... soit d'aller au gym, soit passer du temps de qualité avec les gens que j'aime, que ce soit ma blonde, mes amis, ma famille. Qu'est-ce que j'ai dit? Aller au gym, passer du temps de qualité, faire des escapades, j'aime ça. Sortir, aller au resto, aller dans les bars, je suis quand même un sorteux, j'aime ça. Puis il n'y a pas beaucoup de ces choses-là qui étaient possibles pour moi durant le COVID, donc mon stress a toujours été super, super élevé parce que j'avais beaucoup de difficultés à me libérer de cet endettement-là de stress et de temps. Donc, j'avais pas beaucoup de capacité sur ma carte pour faire du podcasting. Donc, j'ai réussi à la vider dans les 2-3 dernières semaines avec les embauches de nouveaux employés, la formation qui est passée, la tornade d'apprentissage dans le lab qui, je crois, est derrière nous, du moins jusqu'à la prochaine étape. Donc, je suis back. Et aujourd'hui, on va parler de marier un client versus le one. Aujourd'hui, on va parler du concept de lifetime value d'un client, donc vraiment focusser sur les 15 prochaines années avec un client et arrêter de regarder chaque transaction de façon monétaire. Je vais vous donner un exemple concret, ça va être plus facile d'embarquer avec moi dans cette idéologie-là. Ce que je veux dire par focusser sur le mariage, focusser sur le lifetime value, le long terme, puis mettre de côté nos feuilles Excel, l'instant d'une transaction, c'est pendant le COVID, par exemple, on deal avec Canada Post puis UPS pour nos envois nationaux, puis on deal avec Canada Post puis USPS pour nos envois aux États-Unis. Le COVID, pour les compagnies de transport, c'est un peu comme si c'était Black Friday à tous les jours. C'est exactement ce que Canada Post nous ont dit. Même si on expédiait nos colis la journée même, des fois, les camions, avant même de rentrer dans le centre de distribution, pouvaient attendre jusqu'à 2 jours avant d'être mon Dieu, je cherche mes mots. Ça fait trop longtemps que j'ai fait de podcasting. Avant d'être vidé, excusez-moi. Bon, les camions pouvaient attendre jusqu'à 2 jours dans le stationnement avant d'être vidés. Et en plus, à l'intérieur, il y avait des restrictions tant qu'au niveau des employés, il y avait des restrictions par rapport aux distances entre les employés. Donc, la vitesse de triage était diminuée minimum de moitié. Donc, on peut comprendre que augmentation du volume de transactions, diminution des capacités d'envoi, de triage, etc., ça a fait le calvaire sur le marché. Vous le savez, vous avez sûrement commandé quelque chose en ligne qui a pris entre 7 et 14 jours à ouvrir. C'est pas nécessairement de la faute de la compagnie, à moins qu'elle a pris trop de temps à l'expédier, mais c'était pratiquement ingérable. Si tu faisais juste de l'envoi au Québec, c'est pas si pire parce que tu peux, avec snapship.com, choisir une compagnie de transport qui va passer, venir te voir, va l'expédier pas trop loin. Mais quand tu envoies une centaine de paquets par jour, c'est vraiment, vraiment plus touché. Surtout qu'il n'y a pas d'intégration web qui se fait. Donc, bref, on peut pas faire grand-chose de plus qu'on faisait déjà. Et on expédiait la journée même, peu importe le nombre de colis qu'on avait. Des fois, on se mettait 2-3 personnes pour expédier les colis. On pouvait pas faire grand-chose de plus. Et tout de même, il fallait rester indulgent puis comprendre la frustration du client. Je veux dire, t'sais, ma blonde a commandé quelque chose, c'est Gymshark. Ça a pris 3 semaines avant qu'elle reçoive. Le tracking, je me souviens, elle me le montrait, là, c'était fou avec Canada Post. À chaque 2 jours, le tracking disait que le colis allait être livré. Finalement, c'était jamais livré. Ça repoussait 2-3 jours, jusqu'à un point où, bon, finalement, tu reçois le colis. Mais avec tout ça, est venu énormément de emails, de support, de service à la clientèle, des gens tous les jours, je vous dirais, à coup de 20-25 emails, de « Hey, mon colis n'est pas encore arrivé, le tracking disait que ça allait arriver hier, c'est vraiment fâchant, j'ai besoin de mes suppléments. » Parce qu'on le sait dans le monde des suppléments, quand notre pot est vide, on le veut maintenant. Puis c'est pour ça, je pense que les magasins de suppléments sont encore là pour longtemps. Tu sais, dans le monde du retail, on dit que c'est difficile. Moi, je pense que les magasins de suppléments ont encore une très belle vie devant eux, juste à cause de ça, où quand on aime un pré-workout, quand on aime une protéine, ça nous fait chier de ne pas l'avoir. Puis je pense que les gens vont continuer d'acheter dans les magasins. Bref, tout ça pour dire que je comprends leur frustration en tant que client de suppléments. Et pour nous, c'était vraiment pas de notre faute. C'était ingérable. Il n'y a rien qu'on pouvait faire outre s'excuser puis vivre leur peine avec eux. Mais tu sais, quand un client te donne l'ultime signe de confiance, soit sa carte de crédit dans une transaction et te donne de l'argent pour laquelle il a travaillé fort et la dépense dans ton produit, dans ton idée, dans qu'est-ce que toi t'as bâti, je pense que c'est ta mission en tant que propriétaire d'entreprise, c'est de focusser sur le long terme et arrêter de sortir notre feuille Excel à chaque transaction pour voir comment on peut, de façon la plus économique, rendre le client le plus heureux. Je pense que qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sacrifier aujourd'hui pour demain, puis focusser sur les 100 prochaines transactions. Donc, si tu perds 5-10$ sur la transaction d'aujourd'hui, mais que tu vas faire 60$ de profit sur les 100 prochaines, parce que cette transaction-là t'a permis d'avoir les 100 prochaines, parce que maintenant, il te fait confiance, ben mets ça dans ton Excel, puis tu vas voir que c'est pas mal plus profitable qu'essayer de sauver 5-10$ sur la transaction d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple concret. Tantôt, je parlais de Post Canada, je parlais de UPS, à quel point c'était le bordel, c'était l'enfer. Mais c'est rien comparé à ce qu'on a vécu aux États-Unis où ça continue d'être le bordel avec USPS, qui est le United States Postal... Excusez-moi, mon Siri est parti en même temps que je vous parlais. Le United States Postal Service, qui est le USPS, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que Canada Post transige vers eux, rendus aux douanes, pour nous, pour l'instant. Et écoutez, c'était l'enfer. Là, on avait des délais... Même dans l'Est américain, c'est de 2-3 semaines. Dans l'Ouest, ça pouvait aller jusqu'à 4 semaines. Les tracking updates n'étaient pas... écoutez, c'était tellement l'enfer. Là. Au Québec, c'était pas si pire. Là. C'était 5 à 6 jours ouvrables. Même là, c'était le Dawa. Là. Mais au US, c'était autre chose que ce qu'on vivait. Puis à un moment donné, tu sais, il y a une limite d'excuses que tu peux donner à un client. Puis on était toujours super transparent avec eux. Alors, on leur disait là, pendant 2 semaines, écoute, on a shippé la commande le plus rapidement qu'on peut. Et c'est expédié le jour même. On est désolé. On va attendre. Attends encore une couple de jours. Écris-nous si tu n'as pas eu le colis. Mais en même temps, il faut être compréhensif au niveau des clients. Quand ça fait 3 semaines que tu n'as pas eu ton package, c'est un peu poche. Fait que souvent, on s'est... T'sais, j'allais jusqu'à rembourser la moitié du montant total d'une commande avec des clients. Des fois, j'ai même remboursé des commandes complètes. Je me souviens, des fois, ça a pris 4 à 5 semaines. Mais t'sais, je ne pouvais pas continuer comme ça. Mais en même temps, on ne voulait pas fermer notre site américain. Fait que qu'est-ce qu'on a fait comme décision? C'est qu'on a décidé d'upgrader tout le monde au Express Post Canada sans leur dire. Ça veut dire qu'on continue de leur charger le même frais qu'on chargeait avant. On n'a rien changé. On continue de leur dire que c'est un service accéléré, mais on leur dit pas que c'est le service express de Canada Post. Puis nous, au moment de l'expédition, maintenant, on paye pour l'Express Post. La différence, c'est que je vous donne un exemple. Admettons qu'on expédie un BCA, puis un burner et un shaker dans l'Est américain, au New Jersey. C'est une petite boîte, là, c'est vraiment tout petit. Avant, ça nous coûtait, je sais pas, moi, environ 15 à 18 $. Puis avec le service express, on a sorti des prix, ça nous coûtait 33, des fois 35 $ dans l'Est américain. Puis là, si tu vas dans l'Ouest, tu peux monter à comme 42, 45 pour la même boîte. Fait qu'on dépense énormément d'argent en shipping. Mais encore là, le focus, c'est quoi? Est-ce qu'on essaie de sauver 15 $ à chaque expédition ou on se dit on va mettre plus d'argent en shipping? On leur dira pas. On va leur dire qu'ils vont penser que c'est notre service standard. Ça va prendre quand même un certain délai avant qu'ils aillent leur commande. Mais je veux dire... Notre focus, c'est d'expédier nos produits, que les clients les aillent, qu'ils les aiment, qu'ils apprécient l'expérience qu'ils ont vécue chez Belief, puis qu'ils continuent d'acheter pour leurs 100, 200 prochaines commandes de suppléments. C'est ça, essayer de marier un client. C'est arrêter de voir chaque relation qu'on a avec un client de façon transactionnelle, plutôt de les voir comme une vraie relation de confiance, comme quoi ces clients-là doivent avoir confiance en nous pour continuer de dépenser. Non seulement pour dépenser, mais les clients... qui ne jurent que par vous, donc qui sont des raving fans, vont vendre vos produits à leur famille, à leurs amis, à leur entourage, puis ils vont jurer que par vous. Puis c'est ça qui est payant en business, c'est d'avoir des ambassadeurs qui sont en plus des clients. C'est ça qui est payant. Fait qu'on focus sur le long terme et on lâche le court terme. Gars, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre. Puis tu sais, arrêtez aussi de traiter vos codes de support à la clientèle, que ce soit par email, par téléphone ou en visite en magasin, comme un enfer dans votre business. T'sais, approchez pas ces moments-là avec la mine basse. Oui, ça peut être fâchant des fois, puis oui, des fois, on deal avec des clients qui sont pas vivables puis qui ont une attitude pas mal désagréable, mais ça fait partie de la game. C'est, pour moi, c'est une mine d'or d'opportunités, ces moments-là. C'est une opportunité de montrer au client qui a fait le bon choix de dépenser chez vous, peu importe qu'est-ce qui arrive. Peu importe qu'est-ce qui arrive. Il n'y a rien qui nous fait plus peur que de dépenser quelque chose sur Internet. Il y a toujours la peur du regret. Puis si vous êtes capable d'éliminer la peur du regret avec un client, vous le gagnez pour le restant de ses jours. Tu sais, combien de fois on a mis quelque chose dans un cart sur Internet pour finalement se dire « Ah! » Là, tu sors ta carte de crédit puis t'es comme, t'es pas sûr encore parce que t'as 1 million de questions. Puis en plus, t'as peur que si t'aimes pas ça, tu pourras pas le ramener. Puis là, tu penses au montant d'argent puis qu'est-ce que tu préfères avec. Puis là, tu mets quelque chose dans ton cart, tu sors ta carte de crédit puis tu dis, ah, je vais voir demain matin si ça me tente encore de l'acheter. Puis tu sais, la seule chose qui t'empêchait d'acheter à ce moment-là, c'est la peur du regret. Essayez de focusser à éliminer cette peur-là avec vos clients. Je vous dis, votre business va doubler facilement. Du moins, chaque montant que vous faites avec client X va doubler, ça c'est sûr et certain. Puis je pense que ces situations de support à la clientèle-là, il faut aussi arrêter de les voir à travers nos lunettes de la vie à nous. Pour essayer de désamorcer notre frustration puis nos émotions dans ces moments-là. Tu sais, moi j'ai fait 10 ans de restauration, fait que j'ai vécu beaucoup de moments de frustration client sur le fly, fait que j'ai quand même eu beaucoup d'expérience avec ça, mais quelqu'un qui n'est pas habitué à dealer avec des clients qui sont fâchés. Puis des fois, c'est pas de votre faute. Là. Même chose en restauration. Si t'as, je sais pas, moi, le resto est bondé, si y a un line-up dehors, son short staff à l'arrière dans la cuisine, il y a un cuisinier qui a décidé de pas rentrer, il y a un four qui marche pas, il peut y avoir 1 million de facteurs que tu contrôles pas qui font en sorte que le gars qui a commandé son steak, que t'as punché à temps, que ça fait 45 minutes qu'il attend, c'est pas de ta faute, mais c'est toi qui es au front line, c'est toi qui es devant lui. Fait que, tu sais, le service à la clientèle, des fois, c'est pas de ta faute. Même chose pendant le coronavirus où on expédiait la journée même avec Canada Post, puis ça arrivait 7 jours ouvrables plus tard. C'était pas notre faute. On conduit pas les camions. On n'a pas de. Mais tout de même, c'est toi qui parles aux clients, donc il faut que tu restes de glace, puis il faut apprendre à rester de glace. Puis oui, on va dealer avec des clients désagréables, puis oui, on va se dire, hey, moi, si j'étais à sa place, c'est pas de même que j'aurais réagi. Oui, peut-être. Mais il faut arrêter de voir ces moments-là à travers nos lunettes de la vie à eux. On ne deal pas avec nous-mêmes, on deal avec quelqu'un d'autre, puis on connaît pas les situations de ces clients-là, puis on connaît pas la grosseur de leur budget. T'sais. Si, par exemple, sur une commande de 100$ de supplément sur Believe, on expédie la commande, puis on fait une erreur de, je sais pas moi, de saveur où on oublie d'envoyer un des 4 produits qu'il a commandé. Puis cette personne-là, c'est son seul 100$ de supplément dans le mois. Puis c'est quelqu'un qui est très serré dans son budget. Ben, je peux comprendre que c'est quelqu'un qui va être un peu plus émotionnel, un peu plus stressé par rapport à la situation. Puis, tu sais, il faut être indulgent avec tout le monde. Vous savez jamais à qui vous parlez. Vous savez jamais quel genre de situation ils vivent. Donc, je pense juste rester ouvert d'esprit puis essayer de rester de glace, rester neutre par rapport à ça. Soyez compréhensif puis tourner chaque problème en opportunité. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire en service à la clientèle. Donc, voici, c'est un wrap-up du sujet, guys. Le mariage versus le one night. Je pense que trop de monde focus sur le one night. Puis c'est le mariage dans la vie qui est payant. T'sais. Les one night, c'est cool, mais ça t'apporte quoi dans la vie? Ça t'apporte quoi de faire 30$ de profit sur un client que tu sais très bien que son expérience est mauvaise quand tu aurais pu très bien en perdre 12 sur cette transaction-là puis en faire 30 sur les 100 prochaines transactions? Mine de rien, tu aurais fait 2988$ de profit de plus que sur cette transaction-là à long terme. Fait que j'espère que l'idéologie a fait son chemin dans votre tête puis que le mariage versus le one night, c'est évident que le mariage va faire en sorte que vous allez avoir une business à succès, peu importe votre domaine. Guys, merci mille fois pour le support. Écrivez-moi sur Instagram. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez des épisodes, s'il vous plaît. S'il y a des sujets que vous aimeriez voir, écrivez-moi aussi. J'adore ça. C'est toujours le fun d'avoir vos inputs. Et n'oubliez pas, ça prend 12 secondes. Vous allez sur Balados. Mettez un 5-star review. Il faut que vous descendez en bas jusqu'à mon premier épisode. En bas, vous allez avoir une place pour mettre des commentaires. Vous mettez 5 étoiles. Mettez un commentaire écrit. iTunes se nourrit de ça pour classer les épisodes. Et si jamais vous écoutez sur Spotify, eh bien, abonnez-vous, tout simplement. Guys, on se dit à la prochaine. Cause we were born for this. We were born for this.